Un jeune homme noir est tombé. Ma mère Mariama effondrée. Et ma voix qui s'élève dans le blanc des néons tombe sur le carrelage puis remonte. Rejoint celle de mon frère au-dessus de moi. Je crie. Je ne me tairai pas.
Le Yinche, autophagie, devoir surveiller, trois pièces à l'affiche du Théâtre public de Montreuil pour découvrir le travail d'Eva Doumbia, autrice et metteuse en scène qui ne cesse de s'interroger sur les relations de l'Europe et de l'Afrique et de la place des Noirs dans la société française. Bonjour Eva Doumbia.
Bonjour Pascal.
Peut-on vous nommer, vous étiqueter comme afropéenne?
Je m'étiquette moi-même comme ça, donc bien sûr, n'importe qui peut le faire aussi.
Et ça a été un des titres de vos spectacles,
tout à fait.
Afropéenne, avec Leonora Miano. À l'heure des réseaux sociaux, vous pensez que le théâtre est toujours un lieu de parole?
J'en suis d'autant plus convaincue de ce à quoi j'assiste depuis... Depuis quelques temps, avec les représentations du Yinche, c'est un spectacle qui a toujours fonctionné en public. Mais là, j'ai l'impression qu'il a trouvé vraiment son endroit à Montreuil, avec un public qui ressemble aux personnes qui sont sur scène. Et c'est assez fou ce qui se passe, quoi.
Alors Montreuil, banlieue parisienne, très forte communauté malienne, pays dont vous êtes aussi originaire, puisque vous êtes originaire de Côte d'Ivoire et du Mali. Il y avait en effet vendredi, quand je suis venu voir le spectacle, énormément de jeunes dans la salle. Mais c'est vrai que... comme c'est un spectacle qui parle des violences policières, forcément, ça les concerne.
Tout à fait. En fait, surtout, c'est qu'il y a eu... On n'est pas très loin de Naël, on n'est pas très loin de Wanis. En fait, comme il y a toujours régulièrement quelque chose qui se passe avec la police, et malheureusement. Une question qui est posée souvent, qui est posée de manière récurrente dans le spectacle, c'est qui sera le prochain? Serait-ce moi le prochain? Évidemment que ça résonne chez les personnes qui étaient là.
Et puis c'était un spectacle qui parle aussi de l'identité, de ce que c'est qu'être noir et être jeune aujourd'hui.
Et de la famille.
Et de la famille, donc on en parlera tout à l'heure. Mais égrenons les trois spectacles qui sont à l'affiche du Théâtre de Montreuil. Il y a aussi Devoir surveiller, ça c'est une seule représentation ce week-end, et qui elle a été écrite directement avec des jeunes. Donc là aussi il y a une préoccupation de votre part, Eva Doumbia, pour faire en sorte que cette parole théâtrale ne soit pas une sorte de chose un peu momifiée, qui sente la naphtaline, mais qui soit en prise avec ce que vivent les jeunes.
Alors, Devoir surveiller, c'est un projet qui associe deux de mes dadas, c'est l'action culturelle et la création artistique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une série, comme une série Netflix, comme n'importe quelle série, qui s'écrit. Mais la particularité, c'est qu'elle se passe au théâtre et que c'est joué en direct par trois jeunes comédiens et qui jouent plusieurs personnages, chacun chacune. Et chaque épisode est suivi de séances de brainstorming, exactement comme on écrit des séries, sauf que c'est le public en fait qui participe au brainstorming et qui me donne toutes les idées possibles, toutes les idées. Et en fait, à partir des idées que je reçois dans les ateliers, j'écris les dialogues. C'est un protocole qui est un peu, on va dire, périlleux, puisque comme je suis l'actualité, je récupère les idées, on joue une fois par mois, je récupère les idées à la fin de chaque séance, on a six séances par mois, je récupère les idées à chaque fin de séance, à la fin de... J'attends parce qu'il faut que je sois collée à l'actualité. Donc j'écris... 15 jours avant, de manière à ce que les comédiens et les comédiennes aient le texte une semaine avant le début des répétitions, et ensuite on répète 3 jours et on joue. Donc là, ça va être l'intégrale. Donc on va voir comment ça tient en fait tous les épisodes les uns après les autres, puisqu'en fait on ne sait pas du tout en fait comment ça va se faire. Donc là je suis en répétition actuellement avec les comédiens et les comédiennes pour
et ça parle de politique, ça parle d'affaires de cœur, ça parle de famille, ça parle de tout.
Alors, ça parle de tout puisqu'on suit l'actualité. Donc, et puis effectivement, comme c'est une série, l'idée c'est quand même de comment, qu'est-ce qui fait qu'on tient les gens, c'est de savoir si ils ou elles vont se mettre ensemble, etc., etc.
Alors vous, autrice et dirigeant un théâtre en Normandie, quel regard vous portez justement sur cette génération qui a 20 ans en 2024, que vous mettez parfois sur scène et qui est très souvent dans la salle ?
Alors, je ne suis pas directrice d'un théâtre, en fait, ma compagnie occupe un théâtre, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait... Alors aujourd'hui, je trouve que c'est une génération qui est extrêmement enthousiasmante et qui donne de l'espoir. Ils sont très ouverts, beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Je ne dirais pas le mot déconstruit, je dirais qu'ils sont construits différemment. Et en fait, on est dans un monde qui est affreusement anxiogène, en fait, dans une société qui tente, en fait, finalement, de créer de l'angoisse. Et en fait, il y a une vraie liberté chez la jeunesse, à tous les endroits. C'est-à-dire que dans cette salle, on peut avoir... Elle est diverse dans le vrai sens. C'est-à-dire que c'est pas simplement une question de couleur de peau ou de religion, mais c'est aussi même une question d'identité de genre, en fait. Et ça marche bien. Et je trouve que mon travail, c'est intéressant parce que il y a un vrai métissage, en fait, à mon travail. Pas dans le sens uniforme, justement. C'est-à-dire que ça se croise, ça se défait. Et je trouve que c'est assez passionnant.
Et c'est vrai que c'est une banlieue à la fois populaire et qui devient de plus en plus bobo, comme on dit. C'est-à-dire que les classes sociales cohabitent aussi.
Les classes sociales cohabitent dans cette ville. Et on a aussi des bobos issus de l'immigration postcoloniale, dont je fais partie. Moi, je suis une des premières représentantes de cette communauté.
Et vous êtes bobo ?
Je suis malheureusement. En fait, finalement, oui, tant mieux, parce que ça veut dire que le modèle scolaire a pu marcher. Hein. Mais c'est pas que ça qui a marché, mais ce que je veux dire, oui.
Trois pièces à l'affiche, donc Le Yinche, Devoir surveillé et Autophagie, qui racontent l'histoire des aliments que l'on a dans notre assiette et où vous nous racontez que finalement ces aliments sont forcément liés à une histoire et que cette histoire est celle de l'esclavage et de la colonisation. Est-ce que ces trois pièces, Eva Doumbia, sont représentatives de votre engagement, j'ose le mot, artistique et politique?
En fait, c'est un panel qui, effectivement, tout à l'heure, quand vous le disiez, quand vous avez parlé des pièces, je me suis dit, mais effectivement, c'est un panel qui peut assez représenter, mon parcours artistique. C'est-à-dire qu'on a, finalement, Le Yinche, c'est une dramaturgie relativement classique, avec une histoire, des personnages. C'est construit comme une tragédie. En fait, j'ai écrit la pièce en pensant tragédie, une fiction, même s'il y a des clins d'œil au sitcom, puisque moi j'ai pensé beaucoup au Cosby Show, en fait, quand j'écrivais les scènes de famille. Autophagie, ça participe plus de ce que j'appelle moi la dramaturgie d'assemblage, avec des textes qui sont plus documentaires, mais avec une tentative de poétique, en fait, aussi, et puis avec quelque chose qui a à voir avec le show, le cabaret, etc. Bon, on appelle ça une chorégraphie documentaire, mais il y a quand même de la danse. Il y a de la musique, il y a du chant, enfin, il y a plusieurs choses. En fait, c'est beaucoup plus mélangé. Et puis, Devoir surveiller, qui est une tentative de rassembler autour d'une fiction commune qui se fait avec le public. Alors, qu'est-ce qu'est le lien entre ces trois formes qui sont très différentes les unes des autres? C'est quand même le désir d'une fusion et de faire en sorte que le théâtre soit une chose qui se met au centre de la démocratie. Je vais citer encore le regretté Edouard Bond, l'art dramatique est au cœur de toute démocratie. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est de trouver comment est-ce que le théâtre peut poser des questions à la société et comment la société, en fait, peut se servir du théâtre. Et là, c'est l'endroit vraiment de devoir surveiller, puisque les gens participent à la narration. Ils s'en servent comme de les jeunes, en fait, qui ont participé aux ateliers. Il y a 6 groupes. Hein. Il n'y a pas que des jeunes. Hein. Il y a aussi un groupe de seniors, puisqu'on travaille aussi en maison de retraite. En fait, je leur pose la question, de quoi vous voulez parler ? Qu'est-ce qui vous semble important ? Et ça, c'est intéressant, parce qu'après, nous, on s'approprie, on n'est pas forcément d'accord.
Mais en tout cas, poser la question permet de faire société.
Tout à fait.
Trois pièces d'Eva Doumbia aujourd'hui dans De Vive Voix et une chanson signée Solane, extrait de son mini-album Monstrueuse, c'est le titre de l'EP.
Je me sens comme un agneau qui dit pardon au loup d'avoir été trop lent à lui offrir son cou, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge se tacher. Cette chambre me doit des mea culpa, l'appel à marcher entrera au tourienne. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Je ne veux plus supplier. Soleil de minuit, qu'on me rende ces fêtes qui comblent mes insomnies, sans l'ombre d'une main qui flotte et se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit des mea culpa, la chaîne à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Faire cracher leur venin debout. Et je mangerai leur langue si c'est le prix du silence. Je mangerai leur langue si c'est le prix du silence.
Solane sur RFI, une histoire de chienne, mais une histoire de chien aussi aujourd'hui dans l'émission avec Eva Doumbia, puisque c'est le titre de son spectacle, Le Yinche, ce qui veut dire Eva Doumbia, le chien en verlan.
Tout à fait.
Pièce qui raconte comment un jeune homme, Idrissa, rêve d'avoir un chien. Pourquoi il rêve d'avoir un chien ? C'est un signe d'intégration ?
Bah, en résumé, oui. C'est pour correspondre à l'image de la famille française de la télévision. Donc, le pavillon, en fait, ça arrive pour lui, ce désir, au moment où ses parents, après avoir économisé, ont réussi à acheter un lopin de terre, enfin un terrain, à faire construire la maison. Et en fait, lui, il a cette image-là, c'est-à-dire qu'il veut ressembler au garçon, à la famille de cette famille de la télévision, avec deux voitures, les parents qui travaillent tous les deux, qui sourient au petit déjeuner et qui ont un chien.
Et il passe son bac et il rêve d'avoir un chien.
Il fait tout très bien, en fait.
Donc c'est son histoire avec sa famille. Pas toujours très simple hein, quand même, parce que le père est plutôt un taiseux, un peu violent, il parle pas beaucoup, c'est une famille un peu comme ça, rustre, en tout cas où il y a un clivage de génération. Et puis c'est l'histoire d'Idrissa aussi avec ses potes qui sont tous à peu près comme lui, c'est-à-dire qu'ils passent leur bac. Le problème c'est qu'ils savent pas vraiment où est leur place. Qu'ils sont d'ici ou d'ailleurs ?
Alors, il y a trois représentations. Il y a la fille aussi, ça c'est important aussi, Ramata, qui en fait...
La sœur jumelle.
En fait, en discutant hier avec la comédienne, avec Olga Mouak, elle me disait, c'est fou parce qu'elle commence, elle me dit, c'est une place particulière parce que Ramata, elle n'a pas ses amis. On ne voit jamais les amis de Ramata. On voit les amis de Drissa, mais on ne voit jamais les amis de Ramata.
Mais ça, c'est la faute de l'autrice.
Elle est seule. Mais en fait, je pense, en fait, ce matin, je lui ai écrit, je lui dis, en fait, en vérité, je pense que c'est Ramata qui raconte l'histoire. En fait, c'est elle qui la commence et elle qui la termine. Et en fait, toute cette histoire qui est racontée, en fait, elle est racontée dans le regard de Ramata, en fait, en vérité. Et donc, les garçons, ils sont tous représentants de quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, Mandela, il est adopté et en fait, il n'est pas du même milieu social que Drissa. C'est-à-dire qu'il est noir lui aussi, mais il a une mère blanche. Et en fait, il a d'autres problématiques. Karim est plus proche, et en même temps, il a moins la niaque en fait, de réussir que Drissa, en fait. Drissa, il lâche pas, il veut absolument en être, et en fait, il a vraiment compris comment ça marche. Il a décidé de passer toutes les étapes, de passer toutes les barrières.
En tout cas, c'est tout sauf une racaille, comme disent les politiques.
Oui, mais moi, je crois que la racaille, ça n'existe pas, en fait.
Donc, c'est plutôt un gars cool. Il veut son yinche. Et il récuse toute idée de colère. Il dit « je veux être banal ».
Tout à fait.
En moi, la colère, et je refuse la colère. Je dis non à toute colère. La colère est debout. Le sol que tu frappes de tes pieds sous l'eau. Après la colère, tu reviens et tu te couches le cerveau vidé. Et tu vis comme sans savoir, mais moi je sais tout. J'ai vu loin. Je sais que rien ne mène à rien. Ce pays est un corps malade. Il me demande à moi de me fondre à lui. Il me refuse la fonte à la fois. Je fais quoi de ça? Avec ça?
Eva Doumbia, je fais quoi avec ça, avec ce désir d'intégrer, ce sentiment d'être exclu, de vivre la ségrégation de l'intérieur, ça je cite votre texte, parce que si ce personnage récuse la colère, il est pris quand même dans des interrogations d'identité, mais vous avez écrit cette pièce sous le signe de la colère, non?
Non, moi je ne suis pas quelqu'un qui suis en colère, hein. Non, c'est plutôt une forme de réalisme, en fait. C'est-à-dire, c'est un constat froid et c'est une question qui est posée à l'ensemble du public. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de ça? C'est-à-dire qu'on est pris dans des injonctions contradictoires, ce que le psychiatre, Ronald Lane appelait le double bind, la double contrainte. Donc on est tout le temps pris dans des injonctions contradictoires. Et en fait, il n'y a aucune possibilité de s'en sortir autrement qu'en acceptant le mensonge permanent dans lequel on vit. Et donc, à un moment donné, ce personnage le dit, il exprime ça. Et moi, j'ai écrit ça aussi, parce que Drissa, c'est moi, en fait. Ce désir d'en être, ce désir de passer, d'ouvrir toutes les portes. Quand je suis candidate à la direction de tel ou tel endroit, c'est parce que je sais que c'est normal. Je sais que c'est le parcours normal que je devrais, avec la formation que j'ai. J'ai une formation qui est tout à fait académique. J'ai fait une fac de lettres, en même temps une fac de théâtre. Puis plus tard, j'ai été formée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique dans une unité qui s'appelait l'unité nomade de mise en scène. J'ai fait l'Académie expérimentale des théâtres. En fait, j'ai une formation qui est tout à fait académique. Et donc, en fait, je coche toutes les cases qui devraient me permettre d'être à tel ou tel endroit. Et en fait... qu'est-ce qui fait que ça n'est pas possible? Au fond de moi, je le sais, mais je continue à le refuser, en fait.
C'est quoi, la couleur de la peau?
Je pense pas que ça soit la couleur de la peau. C'est le fait d'avoir mis la couleur de la peau au centre de mon travail et de poser la question coloniale au centre de mon travail. Et parce que ça peut passer comme quelque chose d'agressif, mais moi, je suis jamais agressif. Je crie jamais, en fait, par exemple.
Pour autant, ce spectacle, je trouve, Eva Doumbia, le yinche, est un cri. Il est un cri parce que dans le hall du théâtre est affiché le nom de tous les jeunes gens qui ont été tués lors de contrôles policiers ou d'interpellations policières. Et c'est ce qui va se passer pour Drissa. Avec son chien, il va y avoir un effet de débordement. Le chien va plus ou moins aboyer sur les policiers, en mordre un peut-être, etc., etc. Et puis tout d'un coup, ça tourne à la bavure et il est tué.
Mmh. Mais je savais pas qu'il allait être tué au moment où j'ai commencé à écrire l'histoire. Au moment où j'écrivais l'histoire, en fait, je voulais juste raconter une histoire d'une famille banale, en fait. Et puis Adama Traoré a été tué au moment où j'écrivais le texte. Et me sont revenus la marche de la dignité, où à chaque station, on entendait le nom des personnes qui étaient tuées et l'histoire racontée par leur famille. Et à ce moment-là, Seriba, mon frère, était encore vivant. Il était là, derrière la pièce où j'écrivais. Mon père Amadou était encore vivant. Il était là. Mon père savait qu'il allait mourir, mais moi, je ne le savais pas. Lui, parce qu'à un moment donné, par exemple, le dernier texte qu'il écrit, il m'a dit « Si tu veux, je te raconte une histoire, si tu écris. » Mais mon frère, en fait, on ne savait pas qu'il allait mourir à ce moment-là. Et donc, en fait, moi, j'étais très angoissée.
Ils sont morts de maladie, l'un et l'autre?
Non. Il y en a un qui est mort de maladie, qui est mort d'un cancer, et il était assez âgé. Et puis l'autre qui est mort d'une overdose, qui est une autre violence. Une autre violence, et aussi quelque chose qui affecte beaucoup ces garçons, en fait. Donc, mais il aurait pu être tué dans le cadre. Il aurait pu être tué comme Drissa. Il a fait Seriba, il a fait de la prison, il a été arrêté très souvent par la police, il a été contrôlé, en fait. Et le personnage est très inspiré par Seriba petit. Parce que Seriba voulait un chien quand il était petit.
Et donc, en fait, c'est votre frère.
C'est pas mon frère, parce que mon frère, il était bipolaire, c'était différent. Mais il y a des choses qui viennent de lui, c'est-à-dire ce désir de normalité, d'avoir un petit chien, ça vient de lui.
En tout cas, tout au long du spectacle, les comédiens égrènent les noms de ceux qui sont morts. Et en premier lieu, les noms de Ziad et Bouna, qui meurent à Clichy-sous-Bois, dans la banlieue parisienne. On s'en souvient, électrocutés dans un poste électrique, où ils se sont cachés pour fuir un contrôle de police.
2005. Le flic dit: on a deux Charlie, Delta et un blessé grave. Delta, Charlie, Delta. Langue de policier. Décédé. Pour Ziad et Bouna. Les flics avinés sont assis sur les corps des enfants noirs. Bouna. Amadou. Adama. Alors, le père de l'enfant assassiné se tape la tête contre les murs de la tombe qu'il n'arrivera pas à creuser. Aboubakar Itendia, Samir Rabash, Eric Blaise. Les flics déboulent toutes sirènes hurlantes et les enfants ne comprennent pas. Ils courent, leur cœur affolé devant les chiens dressés à déchiqueter les corps fuyards, car les enfants n'ont pas appris pourquoi, au fond de leur mémoire, siège un nègre courant. Qui sera le prochain?
Qui sera le prochain? Question terrible dans votre spectacle, Eva Doumbia, le Yinche. Pour mémoire, il faut dire que ces deux jeunes gens, Ziad et Bouna, vont provoquer, enfin la mort de ces jeunes gens va provoquer de très violentes émeutes dans les banlieues. Et en prononçant ce mot de mémoire, tout d'un coup, je réalise que c'est ça qui est au cœur aussi de votre travail d'autrice et de metteuse en scène, la mémoire.
Tout à fait. La mémoire pour pouvoir avancer, construire ensemble, en fait, pour pouvoir co-construire. La mémoire, c'est important de se rappeler. En fait, je pense qu'on a tous et toutes la mémoire. Elle est là, elle est active. Là, je vais parler d'un projet, du projet en cours, en fait, qui va être créé en octobre 2024, qui est dans la lignée du Yinche, puisque je raconte une fiction. Je raconte une fiction qui serait celle des parents du grand-père de Drissa qui aurait été tirailleur. Et donc ça me permet, ça, de raconter des massacres peu connus de tirailleurs par les nazis en 1940.
Vous dites que la mémoire est vive, mais on est quand même très souvent coupé de cette mémoire, d'une mémoire familiale, d'une mémoire historique et d'une pensée que ce qui est le présent se nourrit de siècles d'histoire. Et c'est vrai dans votre autre spectacle, Transition habile, Autophagie, où vous nous racontez justement, le spectacle avait été créé au Festival d'Avignon en 2021, où vous nous racontez finalement comment les bananes ou le riz arrivent dans nos assiettes avec une histoire, avec une mémoire.
Et qu'on ne sait pas.
Et on ne sait pas.
Qu'on ne sait pas, en fait. C'est-à-dire qu'on a, ou même les pommes de terre. On pense qu'on a toujours mangé des pommes de terre dans le pot-au-feu, mais en fait, les pommes de terre sont arrivées très tard. Et qu'en fait, c'est notre alimentation est la conséquence de la colonisation. Et c'est là que c'est le plus compliqué. C'est-à-dire que cette chose violente, comme la colonisation, comme les guerres, finalement, peuvent produire des choses délicieuses, comme le mafé.
Les pommes de terre, les bananes, le riz ou le chocolat?
Tout ça pour rien. Tout a commencé et tout continue pour rien. Pour rien. Les indigènes génocidés, leur mémoire parquée, effacée. Pour rien les millions de familles décimées de femmes, enfants, d'hommes à leur terre arrachées, leurs corps entravés, leurs membres blessés, leurs viscères avariés, leurs cadavres parfois jetés par-dessus le bord des bateaux. Pour un rien, Les blessures inguéries et toujours vives malgré les décès au cachot pour rien, les souffrances indicibles, les famines infligées au fond des cales pour rien, les tortures indescriptibles enfermées dans les ruines d'une prison pour rien, pour qu'une poignée puisse, outre les mers, boire sa tasse de chocolat bien sucrée, bien vanillée. Les pleurs des torturés restent pour toujours agrippés aux branches d'un figuier maudit. Pour rien.
Autophagie, Eva Doumbia. Est-ce qu'on peut manger du chocolat après ça?
Oui. Il faut manger le chocolat du chocolatier ivoirien qui est fabriqué en Côte d'Ivoire et qui profite aux habitants de ce pays.
C'est le chocolat que vous distribuez, en tout cas c'était le cas au Festival d'Avignon, que vous distribuez aux spectateurs.
Mais il sera encore distribué, puis en fait on pourra même en acheter à la sortie du spectacle.
Donc il ne s'agit pas d'être punitif, il s'agit juste d'avoir la mémoire, d'être éveillé.
Oui, parce qu'en fait je pense que... Pareil, encore une fois, le gros paradoxe, c'est qui peut se permettre de manger local, d'être vertueux dans sa manière de consommer ? Ce sont les classes les plus favorisées. Et je pense que ça serait... Moi, je pense qu'il faut une vraie réflexion, en fait, sur l'alimentation. Encore en France, ça va à peu près, mais on a joué depuis... Autophagie en 2021, on a une version entièrement en anglais qui a tourné aux États-Unis avec des textes qui sont légèrement différents puisque ce n'est pas moi qui joue, donc j'écris pour l'autre personne qui me remplace. J'ai découvert à l'occasion de cette création américaine la notion de désert alimentaire dans des endroits qui sont riches en fait, où les gens ne peuvent se nourrir que de chips. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est une vraie réflexion à avoir en fait sur nos modes d'alimentation.
Le théâtre, en tout cas avec vous, est nourrissant, Eva Doumbia, parce qu'à l'issue de Autophagie, il y a un grand repas.
Il y a donc un repas.
On peut dîner tous ensemble avec les comédiens et l'ensemble du public.
Ça fait partie du spectacle.
Et ça fait partie du spectacle. C'est l'importance du collectif, du être ensemble.
Alors, oui, tout à fait. Autophagie, je pense que c'est l'endroit où, pour moi, c'est le spectacle où on est allé le plus loin, en fait, dans les travaux de la compagnie. Dans la fusion avec le public, enfin, dans la chose. C'est l'endroit où on est allé le plus loin. Aussi parce qu'il y a, une forme de totalité. On entre dans les odeurs des oignons, dans l'odeur de l'oignon, du soumbala.
Qu'on fait la cuisine, enfin on fait. Vous faites la cuisine sur scène.
C'est Alexandre Bellaola et qui est chez lui à Montreuil puisque c'est le patron du restaurant qui s'appelle Rio de Camaros, qui est un restaurant qui est à Montreuil, on mange très bien.
Petite publicité gratuite.
Oui, mais donc il est là, sur scène. Alors, l'histoire d'Alexandre, c'est que c'est intéressant, c'est qu'il est arrivé en France pour être comédien.
Il est cuisinier.
Alors, c'est aussi une autre chose, c'est-à-dire qu'il est arrivé en France dans les années 80 et il est entré au Conservatoire National Supérieur. Et il a très peu travaillé comme comédien, pour des raisons que je ne vais pas... Que ce n'est pas la peine que je les dise, on les connaît.
Et aujourd'hui, il est donc cuisinier, mais il est sur scène avec vous dans Autophagie.
Ouais.
Merci Eva Doumbia.
Merci Pascal de nous avoir reçu.
Plusieurs rendez-vous donc avec cette carte blanche au Théâtre Public de Montreuil. Le Yinche, qui se joue jusqu'au 28 mars. Et le texte est édité chez Actes Sud Papier, pour qui veut le lire. Devoir surveiller, c'est le 30 mars. Donc ça, c'est... une seule journée,
ouais.
Mais ça dure tout l'après-midi, pratiquement, un peu plus de 5
heures. C'est ramadan compatible, c'est important de le dire aussi.
Et puis Autophagie, troisième spectacle, donc, où l'on peut dîner après le spectacle, du 3 au 7 avril. Merci beaucoup et à très vite. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, David de Brocouet à la réalisation. À demain et vous pouvez continuer à nous suivre sur rfi.fr.